Orthodoxie, une émission proposée par Alexis Chrysostalis. Rediffusion du 13 novembre 2016. Chers amis, première de deux émissions aujourd'hui consacrées aux premiers bâtisseurs de l'Église, à savoir les évêques du 2e et du 3e siècle, qui, après la période apostolique, ont su conduire les différentes communautés chrétiennes, géographiquement dispersées et diverses, vers l'unification dans la grande Église et la pratique synodale. Pour en parler, nous recevons Marie-Françoise Baslez, historienne des religions et professeure émérite à l'Université Paris-Sorbonne, auteur d'un ouvrage qui vient de paraître chez Fayard, dont le titre est « Les premiers bâtisseurs de l'Église, correspondance épiscopale, 2e-3e siècle ». Marie-Françoise Baslez, commençons par le choix du titre de ce livre et la méthodologie suivie.
Alors, le choix du titre, qu'est-ce qu'il s'agissait de bâtir une organisation communautaire, rendant compte donc en racinant la révélation évangélique, la révélation du Christ dans le monde tel qu'il était, construire une organisation et aussi construire une unité à partir de, comme vous l'avez très bien rappelé, de petites communautés dispersées, voire même de groupes chrétiens. Donc, il s'agissait de construire à la fois une organisation et une unité, un ensemble. Et je me suis demandé si ça se limitait à cela. Et si on pouvait pas, si tout ce qu'on pouvait dire de cette phase appelée le christianisme primitif, 1er-3e siècle, se réduisait à un travail d'organisation, on ne pouvait pas rechercher aussi des attitudes pastorales, des méthodes pastorales. Et à ce moment-là, donc, comment les chercher? Et c'est ainsi que j'ai pensé aux lettres qu'échangeaient les évêques entre eux ou qu'ils écrivaient, mais il y en a très peu en définitive, à leur communauté. Et alors, ce sont des documents inédits sans lettres. Pourquoi cette présentation un peu bizarre, des documents inédits sans lettres? Parce qu'un seul de ces évêques a édité sa correspondance. C'est Cyprien de Carthage, qui est évêque au milieu du 3e siècle, et qui était très conscient donc que ces lettres épiscopales, il témoigne donc de la circulation des lettres épiscopales, et il est conscient donc qu'elles sont manipulées, comme avaient déjà été manipulées en leur temps, et depuis leur temps, donc les épîtres de Paul, c'est attesté par bien des textes néo-testamentaires ou des pères de l'Église. Donc on a une correspondance épiscopale de 70 lettres, celle de Cyprien de Carthage, milieu du 3e siècle, éditée par ses soins. Et les autres, c'est en cela qu'il s'agit de textes inédits sans vraiment lettres, ce sont des citations plus ou moins larges, plus ou moins longues, et parfois même intégrales, donc de lettres épiscopales conservées par des auteurs ecclésiastiques, soit des théologiens ou des ecclésiologues, comme Irénée de Lyon, ou surtout par le premier historien de l'Église, Eusèbe de Césarée, qui écrit donc cette histoire de l'Église juste avant le concile de Nicée, dans les années 320-325. Alors, il se trouve que cette réflexion, on a là des documents qu'on n'a jamais utilisés, qu'on connaissait, mais qu'on n'avait jamais utilisés, parce que Eusèbe de Césarée n'est pas une autorité ecclésiastique. D'ailleurs, son parcours durant les persécutions a peut-être été assez complexe et pas très courageux, je dirais. Donc, c'est pas un père de l'Église, c'est un évêque qui a aussi flirté avec l'arianisme, ce qui n'arrangeait rien. Donc, c'est pas une autorité spirituelle, c'est pas une autorité doctrinale. Et de ce fait, donc, on lisait pas les lettres qu'il conservait sous cet angle. On passait dessus comme étant des pièges justificatives. Alors, il se trouve que maintenant, il y a tout un mouvement d'historiens de l'Antiquité qui prend conscience qu'à une époque où les écrits circulaient peu, on avait l'habitude donc d'introduire des pièces d'archives associées à des œuvres historiques, philosophiques, ecclésiologiques, ce que vous voulez, comme l'histoire de l'Église d'Eusèbe de Césarée, et qu'il ne faut pas les prendre uniquement comme des documents illustrants, mais essayer aussi de les traiter pour eux-mêmes, pour l'information brute contemporaine des événements qu'il donne, et c'est ce que j'ai fait. Alors, les méthodes se sont affinées, je passe là-dessus, ça vous intéresse pas, je suppose, mais elles sont maintenant affinées, ces méthodes. Et donc, ces extraits, je les ai sortis de leur gang idéologique, ecclésiologique, qui est celle de Zeb de Césarée, pour leur rendre leur fonction, donc, du document brut. En renseignant directement sur le vif, on live, comme on dit, sur le terrain, sur l'activité de ces évêques des 2e, 3e siècle. Et c'est là que j'ai découvert que tout n'était pas, d'abord que les choses ont été extrêmement complexes, que l'Église ne résulte pas d'un organigramme néo-testamentaire qu'on applique ensuite de plus en plus largement, que l'Église, l'ecclésiologie se construit dans la douleur, dans les crises, et que c'est pas seulement un souci d'organisation, mais également un grand souci pastoral qui anime ces évêques.
Merci beaucoup. Alors, un mot aussi sur la chronologie. On dit 2e, 3e siècle, où on commence exactement? Quel est le document le plus ancien, peut-être?
Alors, j'ai intégré les lettres d'Ignace d'Antioche, qu'on date maintenant assez précisément des années 115-117 de notre ère, donc, qui elles aussi ont fait l'objet d'éditions particulières, parce qu'on y reconnaît donc une très grande qualité et une très grande importance patristique, en termes spirituels, en termes d'ecclésiologie. Et un de ses correspondants, l'évêque Polycarpe de Smyrne, donc, est l'auteur d'une lettre pastorale très intéressante, une des plus anciennes, aux chrétiens de Philippe, qui lui avait demandé consultation, donc, qui est peut-être faite de deux. La lettre actuelle est peut-être arrivée aussi de condenser, donc, dans les communautés qui les recevaient, de condenser deux lettres ou plus en une seule épître, mais qui date aussi du début du IIe siècle.
Donc, nous sommes, on va dire, au début du IIe siècle.
Nous sommes à la fin du Nouveau Testament.
À la fin du Nouveau Testament.
Les épîtres, la date des épîtres pastorales, un peu après la date de l'Apocalypse, on est à la fin de l'époque néo-testamentaire.
Quelle est l'organisation, s'il y en a une, du monde chrétien, de ces communautés? On ne peut pas parler encore, je pense, de diocèse, c'est pas ça.
Et non, il n'y a pas forcément d'emprise territoriale très claire. Hein. C'est un groupe qui peut être assez mouvant. On a des exemples de groupes chrétiens, d'églises itinérantes, à commencer à l'époque de Paul, celle de Priscilla et d'Aquilas. Alors, parce que Ignace, qui est notre document épiscopal le plus ancien, qui emploie le titre d'évêque et le titre de diacre, ou la fonction d'évêque et la fonction de diacre parlent d'évêque et de diacre, on a pensé longtemps qu'il y avait déjà à cette époque un organigramme bien établi, donc avec un évêque chef de communauté associé d'un diacre pour les tâches de gestion. Et cette structure, une tâche de direction et une tâche de gestion, est directement imitée du mouvement associatif de l'époque et même aussi de la synagogue. Hein. C'est pareil, l'évêque correspond à l'archique synagogos et le diacre au père de la synagogue. Mais ce qu'on se rend compte quand on étudie cette documentation que j'ai plus ou moins exhumé, donc, c'est que c'est pas du tout un schéma généralisé. Déjà, donc, le titre d'évêque, d'épiscopos, est extrêmement rare. L'évêque peut être seul. Alors, l'épiscopat monarchique, qui a été un peu une tarte à la crème de l'histoire de l'Église à la fin du XXe siècle, comme étant constitutif, donc, de l'organisation ecclésiale, l'épiscopat monarchique, l'évêque tout seul, l'évêque monarque, donc, c'est pas du tout généralisé. En Égypte, l'évêque est le président du conseil des presbytres, du conseil des prêtres. Il n'est que cela. Il est un des le primus inter pares. Le premier des presbytres parmi les autres. Il y a déjà deux évêques, pas vraiment un système de coadjuteurs ou d'évêques auxiliaires, mais à Jérusalem, par exemple, pendant un temps, il y a deux évêques. Déjà dans la lettre de Paul aux Philippiens, l'épître de Paul aux Philippiens, évêque et épiscopos est utilisé au pluriel. Donc, on montre qu'il n'y a pas d'organisation unique, qui se serait petit à petit donc généralisé. Les presbytres, les prêtres, posent vraiment un problème particulier. Ils sont indépendants de l'évêque, essentiellement, fondamentalement indépendants de l'évêque, contrairement donc au diacre. Enfin, pour ajouter à la complexité, le titre d'évêque n'est pas le plus répandu. C'est-à-dire, ce qu'on peut dire, c'est que chaque communauté est un groupe d'hommes autour d'un chef. Je dirais, c'est la formulation la plus exacte qu'on puisse donner de ces premiers groupes d'organisation chrétienne. Mais le titre d'évêque est rare. Il y a tous les titres possibles, pasteur, guide, etc. Et surtout, on dit en général le premier ou le président de la communauté. C'est l'appellation la plus répandue. Enfin, le titre de pape, papa, apparaît déjà, mais une seule fois pour l'évêque de Rome, également pour Cyprien, évêque de Carthage, et pour Denis, évêque d'Alexandrie, et pour Polycarpe, évêque de Smyrne. Donc, il n'a pas l'idée d'une superposition d'autorité qui examinerait cette titulature.
Si on suit la table des matières de votre livre, on voit bien que vous parlez des hommes de terrain, chapitre 1, des hommes de réseau. Alors, on va peut-être lancer cette idée de réseau. Et comment se constitue-t-il?
Alors, ça répond à la seconde problématique qui m'intéressait, que je me suis fixée. Il y avait d'une part l'organisation, on en a dit un mot, et ensuite l'unification. ces petits groupes isolés, mobiles, itinérants, comment pouvaient-ils s'unifier? Donc, eh bien, au fond, là encore, on revient à une découverte assez récente de l'histoire de l'Antiquité, comment l'Empire romain, comment l'administration romaine a fini par maîtriser et par gérer un vaste espace avec les moyens limités de l'époque et le problème des distances. D'où la question de la communication et d'où l'importance des lettres. Après Paul, de Paul à Polycarpe, comme l'a montré Régis Burnet dans un autre livre d'ailleurs, il y a une continuité. La communion au sens théologique et ecclésiastique du terme, l'unité ou l'unification au sens organisationnel des chrétiens ne peut fonctionner que par la communication. On peut dire que de Paul à Polycarpe, Cyprien, Denis et au-delà, les différents Denis et au-delà, donc, ils ont compris l'enjeu de la communication. Alors, cela étant, ils mettent leur pas dans les traces des administrateurs romains, de l'administration impériale, c'est sûr, c'est leur modèle. Pour Cyprien, c'est très clair, comme ça l'était aussi très clair pour Paul. Mais en même temps, donc, ils envoient l'enjeu humain, je dirais. Ils reprennent de l'importance des moyens de communication dans l'Empire romain, le fait qu'il faut faire circuler les nouvelles, il faut y aviser immédiatement d'une persécution, de la mort d'un évêque, d'une succession épiscopale, etc. Donc il y a la valeur de l'information et de la rapidité de l'information, on le voit très bien entre Carthage et Rome, c'est de l'ordre de 3 jours, hein, l'échange de lettres. Donc la nécessité d'une information, et puis sur un plan plus pastoral, je dirais, la nécessité de faire partager un vécu. Ça m'a beaucoup touché cela. C'est-à-dire qu'être chrétien ensemble, c'est pas seulement adhérer à la même doctrine, au même credo, c'est pas du tout reconnaître une autorité unique, c'est partager un vécu. Donc, on fait circuler toutes les nouvelles, la mort d'un tel, ce qui arrive au diacre de telle cité, une épidémie, une disette, une crise, le rétablissement de la paix, les bonnes et les mauvaises nouvelles. Il s'agit de les communiquer au plus vite. Et c'est comme ça que se crée l'unité, à la fois par un tissu relationnel très serré, très rapide, c'est incontestable, qui pose quand même des problèmes techniques, celui de la traduction. Quand Cyprien reçoit, qui écrit en latin, effectivement, latinophone, reçoit une lettre d'un évêque d'Antioche, il faut qu'il la fasse traduire. Et donc, l'idée qu'il faut faire partager aux chrétiens un destin commun, un vécu commun.
Une petite pause de prière, on rentre dans l'église, donc un verset tiré de l'Épître aux Galates de Paul. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ par l'ensemble Harmonie Géorgienne sous la direction de Nina Peradze.
Vous avez été baptisé en Christ, vous avez revêtu le Christ. Alléluia. Vous tous qui avez été baptisé en Christ, vous avez revêtu le Christ.
Tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ. Par l'ensemble Harmonie Géorgienne sous la direction de Nina Peradze, nous revenons à notre entretien avec Marie-Françoise Basselez sur son livre « Les premiers bâtisseurs de l'Église ». Première émission, les communautés des premiers siècles. Alors, on va rentrer maintenant dans la pastorale, la vraie, le contact de l'évêque ou du protos, en tout cas, il y a toujours un président.
Alors, on voit établir leur autorité a été difficile et a donné lieu à des crises multiples, opposées donc par ceux qu'on appelle les charismatiques, ceux qu'on a appelés sur le moment les hérétiques. Et on voit l'évêque soit comme un doctrinaire, soit comme quelqu'un, un pourfendeur d'hérétiques qui lance l'anathème. Et ce que montrent ces lettres, c'est des pratiques pastorales de terrain, d'aller au plus près donc des risques de dissidence et de mettre en place donc la pratique des visites pastorales. Je vais en donner un exemple, une visite pastorale de Denis d'Alexandrie, évêque d'Alexandrie au milieu du IIIe siècle, grosso modo entre 250 et 260, et qui fait donc une visite pastorale à Arsinoé, une ville du Delta, où un livre qui vient de paraître met les gens en ébullition et introduit un risque de dissidence. Mais étant trouvé à Arsinoé, où, comme tu le sais, était répandu le traité et l'opinion de Népos, de sorte qu'on y assistait à des séparations et des défections d'églises entières, je convoquai les prêtres savants qui étaient en charge des frères dans les villages. Et je proposais de procéder à un examen public de l'ouvrage en présence des frères qui le désiraient. Donc la réunion est ouverte à tous, hein, les laïcs comme les prêtres. Je siégeai avec eux 3 jours de suite, depuis le matin jusqu'au soir, et m'efforçai de corriger ce qui était écrit. J'ai beaucoup admiré l'équilibre, l'amour de la vérité, la facilité à suivre un raisonnement et l'intelligence des frères, ce qui nous a permis d'exposer en ordre et avec mesure les questions, les difficultés, les points d'assentiment. Nous ne dissimulions pas les objections, mais nous efforcions d'aborder, de maîtriser les sujets autant que possible, sans avoir honte de changer d'avis. En toute conscience et sans hypocrisie, le cœur tendu vers Dieu, nous acceptions ce qui était argumenté et enseigné par les Saintes Écritures, autorité suprême évidemment. Finalement, celui qui avait été l'auteur du livre et l'introducteur de cet enseignement, le nommé Coracion, fit amende honorable devant tout l'auditoire attentif des frères, et il nous a attesté qu'il n'y adhérerait plus, ni entrerait plus dans ses discours, en abolirait le souvenir et ne l'enseignerait plus. Il avait été suffisamment convaincu par les arguments opposés. Donc il s'agit bien de réduire dans l'œuf un risque d'hérésie et de dissidence qui sort donc d'un livre récemment publié. On voit donc, il ne s'agit pas du tout de jeter l'anathème sur un hérétique prédéterminé, mais de créer donc un consensus dans le peuple de Dieu. Et c'est l'objectif donc des visites pastorales que les évêques mettent en place.
Ce que vous dites est très important parce que quand on prend en main au début ce livre, on a l'impression que le mot d'ordre, je dirais, c'est l'organisation parce que ce monde paraît tellement non organisé qu'il a besoin d'organisation. Et puis on voit bien que quand même le premier souci des évêques, c'est la pastorale. C'est pas l'organisation. L'organisation est peut-être un instrument dont ils se servent pour nourrir la pastorale, pour la soutenir.
Oui, et puis d'autre part, la vérité se découvre ensemble. C'est aussi l'intérêt, je trouve, de ce texte. Il n'y a pas une règle prédéterminée, on se réfère aux Écritures, bien sûr, mais il n'y a pas, sur ce livre, on n'a pas d'avis prédéterminé, il n'est ni bon ni mauvais. On l'examine ensemble et on découvre la vérité ensemble.
Écoutez, pour les quelques minutes qui restent maintenant pour cette émission, pour cette première émission, les problèmes d'autorité, donc, et vous avez 2 chapitres, questions d'autorité, problèmes d'autorité. Hein. Alors, l'évêque, elle est charismatique, et l'évêque, elle est confesseur.
Alors deux mots. L'autorité, pour moi, je crois avoir mis en évidence, c'est un problème du fondement et de la légitimité de l'autorité, d'où les charismatiques. Alors, l'évêque, je renvoie au modèle des pastorales, il est élu par sa communauté. Et il est élu au mérite, ça reste assez... Au contraire, les charismatiques, les inspirés, donc, invoquent comme contre-autorité une relation directe avec l'Esprit-Saint et avec Dieu. Donc il y a un problème permanent, structurel, entre deux groupes d'autorité. Et puis, donc, question d'autorité, la conjoncture, les situations de crise qui sont en partie dues à des questions de personnes et plus souvent encore à la question des persécutions, qui, au lieu de rassembler les chrétiens entre eux, faisait éclater la communauté et mettait l'évêque dans une position véritablement de rassembleur du troupeau.
Alors, pour terminer, une petite question subsidiaire, mais qui est importante, c'est que ces lettres, qui sont elles-mêmes déjà des sources, sont également des sources pour nous donner d'autres documents d'archives. Et donc, vous dites que la pratique d'insérer des documents d'archives
dans la narration est assez développée et donc nous avons des informations qui nous arrivent, qui sont précieuses.
Oui, et qui sont citées intégralement. On ne réécrivait pas les textes, on les tronquait. On les coupait, mais on ne les réécrivait pas. Donc, par exemple, pour des questions de termes techniques, comme l'origine de l'excommunication, on a un lexique précis.
Et est-ce que, dans ces cas, on peut, vérifier, corroborer, voir si des textes qui sont donnés parfois par ces lettres correspondent aux textes que nous avons par ailleurs et donc ces textes sont bons.
Oui, bien sûr. La lettre de Florinus, on la trouve à la fois citée par Eusèbe de Césarée et qui est une lettre d'Irénée de Lyon et également dans le traité contre les hérésies d'Irénée de Lyon. Donc on est...
Ce qui veut dire que la source est fiable.
La source est fiable.
Très très bien, merci beaucoup. Alors, pour la prochaine émission, on va voir peu à peu comment se constitue ce processus d'unification autour du système synodal qui va se mettre en place. Est-ce qu'on peut, en une minute, résumer la situation de l'Église ou des Églises chrétiennes,
il faut utiliser le pluriel,
pour ce deuxième siècle, on va dire.
Deuxième et troisième.
Oui.
En quel sens? C'est le pluralisme des communautés. Oui. C'est des Églises.
Est-ce qu'il y a une communion tout de même de foi qui peut être la même ou il y a aussi des variantes?
Je suis toujours frappée par le laconisme des confessions de foi des martyrs, un autre sujet que j'ai étudié. Je crois en Dieu unique créateur, j'appartiens au Christ, c'est la formule, j'appartiens à l'Église.
Qui va être développé évidemment avec les credos qu'on connaît plus tard, avec les grands textes qui vont venir, mais l'idée reste quand même la même et elle est acquise dès le départ.
C'est quand même l'appartenance au Christ, même si la christologie, comme vous venez de le dire, n'est pas si développée. C'est quand même l'appartenance au Christ qui est le fondement d'identification chrétienne.
Et est-ce que le Christ est déjà reconnu comme Dieu?
Un document récent est assez émouvant. On a trouvé, vous le savez peut-être, un local de soldats chrétiens dans un camp légionnaire de Samarie. Et là, la table d'autel porte, c'est une inscription, donc un document précisément daté, porte l'inscription Jésus-Christ, Théos, Dieu.
Merci beaucoup Marie-Françoise Basselez. C'était donc la première émission, les premiers bâtisseurs de l'Église, les communautés des premiers siècles. Il y aura une deuxième où nous allons nous pencher sur les processus d'unification. Ainsi prend fin Orthodoxie, une émission sous l'égide de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France proposée par Alexis Christostalis. Chargée de réalisation, Laetitia Coya. Prise de son, Claire Levasseur. Vous pouvez réécouter et télécharger cette émission sur le site franceculture.fr. Et voici maintenant le service protestant.